J'ai refusé totalement ce qui
s'est passé. Et est-ce que vous m'avez au cas d'engage, en combinant les deux, de mes précédents trouver une solution par rapport à ça?
Bonjour et bienvenue à Parole aux auditeurs. Aujourd'hui, le 21 septembre, le monde célèbre la journée de la paix, instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1981 et en 2001. Cette instance a unanimement adopté une résolution établissant le 21 septembre comme journée annuelle de non-violence et de cessez-le-feu. Cette journée est consacrée au renforcement des idéaux de paix, tant au sein des nations et des peuples qu'entre ceux-ci. La paix désigne habituellement un état de calme ou de tranquillité comme une absence de perturbation, d'agitation ou de conflit. Elle est parfois considérée comme un idéal social et politique. La RDC est un pays en période de post-conflit. Le 28 novembre prochain, elle va organiser pour la seconde fois des élections présidentielles et législatives après une longue période de transition consécutive à une dictature. Que proposez-vous pour consolider la paix en RDC? Nous avons invité pour vous M. Anselme Yabouri de la division des affaires politiques de la MONUSCO. Thierry Lamégi, Nicole Ngaka réalise cette émission. Sylvain Matundu est à la mise en onde. Marie-Chantal Lumba à la présentation.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, M. Anselme Yabouri.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Une heure et demie d'échange, comme chaque mercredi, parole aux auditeurs, nous avons une heure et demie d'échange avec nos auditeurs. Aujourd'hui, le 21 septembre, journée internationale de la paix. Nos auditeurs vont nous dire ce qu'eux ils proposent pour consolider la paix en RDC. Je vous invite d'abord à suivre cette première série d'auditeurs avant que vous puissiez donner votre point de vue, mais aussi réagir face aux avis des auditeurs. Nous avons déjà le docteur Ye Nei qui se trouve ici à Kinshasa et aussi Chris de Lubumbashi, j'espère. Nous commençons par docteur Nei. Bonjour.
Bonjour Madame Chantal.
Oui, vous êtes ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour consolider la paix en RDC?
Oui, évidemment, bien que choses doivent être faites. Avant tout, j'aimerais que nous puissions énumérer certains paramètres qui sont donc si je parlais de la paix, je crois que notre époque, alors que nous sommes loin de parler de ce terme-là, de la paix, étant donné que la sécurité sociale n'est pas assurée, madame, parce que je parle de la sécurité sociale, je vois là l'aspect emploi des soins, je vois le logement, je vois le niveau socio-économique, et il y a également l'aspect sanitaire où la population n'a pas son droit à la santé, parce que nous apprenons il y a parti par là d'épidémie, bientôt là nous avons appris à l'Équateur l'épidémie de choléra qui est encore réduite, donc nous supposons qu'il n'y a pas eu de mesures de surveillance post-épidémique. Et il y a bien des choses dans ce pays. Il n'y a même pas la sécurité nationale. La sécurité nationale n'est pas sécurisée. Il y a les besoins élémentaires à la vie. L'eau, par exemple, l'électricité, l'alimentation rationnelle, tout ça, c'est encore loin du quotidien du Congolais. Donc, il faut que nous sommes venus d'en parler de traiter bien de la journée mondiale de la notre vie. Et nous demandons même que l'État nous dit que nous sommes en paix. On se dit que ce gouvernement vit dans un autre pays.
Docteur Nei, oui, vous avez énuméré certains éléments que vous considérez, si on arrive à pouvoir atteindre un certain niveau, si on arrive à pouvoir avoir accès aux soins de santé, assurer une sécurité sociale, donc vous avez énuméré plusieurs éléments, et à votre avis, maintenant, dans la situation actuelle que vous êtes en train de décrire, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse avoir ce genre de paix que vous êtes en train d'aspirer?
Oui, je crois que c'est que l'État doit pouvoir assurer ses responsabilités, poser une volonté très engagée, parce qu'il a la tâche de pouvoir sécuriser tous les citoyens. Et puis en plus, il y a un élément, il y a la MONUSCO qui est là, et je crois qu'au lieu qui s'ingère au transfert des minerais du Congo au Rwanda, je crois que la MONUSCO doit pouvoir faire aussi sa mission contre les
Congolais.
C'est vrai, les Congolais. Mais il y a aussi un élément important.
Il faudrait aussi donner la parole à d'autres auditeurs. Vous avez déjà pris près de 5 minutes. Merci de votre intervention. Vous avez fait allusion à une paix spéciale. Chris, vous avez la parole. Chris,
bonjour,
vous allez d'abord répondre à votre... Éteignez d'abord votre poste récepteur. Suivez l'émission à partir de vos téléphones portables. Le temps de pouvoir peut-être vous en éloigner. Nous prenons d'abord Guillaume de Magui. Bonjour Guillaume. Guillaume, bonjour.
Oui, bonjour madame, comment tu vas?
Oui, je vais bien Guillaume. Vous êtes à Magui et dites-nous, qu'est-ce que vous proposez pour consolider la PNRDC?
Ok, je me dis, en tout cas madame, je suis très content de la journée d'aujourd'hui. Parce que cette journée d'aujourd'hui, ça va me permettre de faire beaucoup des analyses moins très approfondies.
Allez-y, nous vous écoutons.
Oui, ça nous mettons aujourd'hui la RDC au centre de notre préoccupation. Donc, après des décennies, le Congo commence à prendre forme. Donc, malgré l'échec des conférences mondiales sur la paix de Moscou à Malte, à la ville de 1947, de Londres, de Chambre, donc, qui marque le début de la guerre froide, donc, on dit que la recherche de la paix aujourd'hui à l'MBC, donc, commence à prendre forme.
Oui, nous sommes dans un pays contre conflit, on a une paix relative actuellement, mais dites-nous, qu'est-ce que vous proposez pour la consolider?
Ok, voilà, merci. Oui, la question de la consolidation de la paix en démocratie, madame Chantal, c'est une question essentielle. Donc, ni mieux que la paix dans ce monde, elle est un très grand projet, comme pour la FERESCO et comme pour la RDC. Donc, la paix est un très gros projet, puisque la guerre est une simple donnée. Donc, la journée d'aujourd'hui, madame Chantal, comme elle est mondiale, il faut que cette journée d'aujourd'hui permette aux Congolais de réfléchir sur quelle est la puissance qui cherche encore à déranger la RDC. Donc oui, malgré plusieurs analyses montrent que pour les Occidentaux, donc le terrain est la règle du jeu, et que la mondialisation...
S'il vous plaît, Guillaume, parlons de la consolidation de la paix à Maragui. C'est vrai que la RDC, sur le plan mondial, bien sûr, il y a la mondialisation, il y a ce rapport de force entre États, il y a les relations diplomatiques, mais à Maragui, dites-nous ce que vous pensez qui peut être fait pour consolider la paix.
Ok, en tout cas moi, je voudrais tout simplement faire des analyses approfondies. Non, Chantal, vous savez, sur le plan international, étant donné que par exemple, dans la logique de l'ordre international, donc nous avons tous besoin d'une paix totale. C'est-à-dire, une paix par le droit international humanitaire, ou droit du peuple, que ce soit une paix par la maîtrise des armements, ou bien une paix par le droit international et la sécurité collective. C'est-à-dire, nous avons tous besoin. Étant donné encore que plusieurs études d'aujourd'hui montrent que la réalité et l'apparence partagent la société du monde d'aujourd'hui pour une paix durable. Donc, par lequel la réalité du monde reste toujours conflictuelle, c'est-à-dire très respectueuse du droit international.
Merci. Merci, Guillaume. Donc, pour vous, il faudrait des réflexions approfondies pour pouvoir consolider cette paix que nous avons. Malonga, vous êtes à Bandundu. Avant que je vous accorde la parole, nous allons lire ce message de Tchouk qui se trouve à Bukavu. Pour consolider la paix en RDC, le gouvernement doit d'abord résoudre le problème des groupes armés qui sont encore actifs en RDC, les groupes armés étrangers. Il serait mieux de chercher à le résoudre d'une manière diplomatique, vu que nous n'avons pas eu assez de résultats à travers différentes opérations qui sont menées actuellement. Il faudrait aussi que le gouvernement améliore les conditions de vie des militaires pour qu'ils remplissent correctement leur mission. Voilà l'avis de Tchouk, qui se trouve à vous. Malonga, bonjour.
Bonjour, madame journaliste.
Oui, Malonga, nous vous écoutons.
Ok, merci beaucoup. Bon, pour moi, je vois que la journée Écoutez, nous avons aujourd'hui international pour la paix. Oui, je la salue d'abord. Mais je vois que pour notre pays, pour que la paix revienne au moins un peu bien, pour que la paix au monde entier, en tout cas, il n'y a nulle part où on peut parler qu'il y a la paix, il y a la paix. Mais ce que nous voulons aussi, que nous ayons une tranquillité, il faut d'abord assurer les deux paramètres que je vais soulever. Premièrement, la sécurité, c'est notre désespère ont déjà soulevé. Il faut que la sécurité soit vraiment bien assurée de la part de notre défense et la FARDC. Il faut que la FARDC sache bien définir leur mission. Bon, d'autre part, c'est la justice. Vous voyez que la justice aussi fait en sorte que la paix soit vraiment bien établie dans un contrat ou bien dans une nation. Pourquoi? Parce que s'il y a une justice juste, s'il vous plaît, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de colonnes, il n'y aura pas de bandits, puisqu'ils seront peur de véridique et de justice. Mais si dans notre pays, la justice continuera seulement à faire laisser aller à tous les invalides de notre pays, mm-hmm. En tout cas, la paix ne sera pas dans une meilleure définition.
Merci.
Je vois, madame.
Merci beaucoup, Malunga. Nous retenons le rôle de la justice dans un État qui se veut consolider son État de paix. Le temps, nous allons écouter Chris après et Eric, le temps de donner la parole à notre invité. Comme je l'ai dit aujourd'hui, nous avons invité pour vous M. Anselme Yabouri de la division des affaires politiques de la Monusco. Nous allons suivre tout juste après ceci.
Parole aux auditeurs.
Vous avez suivi avec moi cette première série d'auditeurs. Nous savons que la mission de l'ONU en RDC a joué un rôle important et continue à jouer un rôle assez significatif, que ce soit dans le retour de la paix, le maintien de la paix. Maintenant, nous sommes dans la phase de la consolidation de la paix. Nos premiers auditeurs, ils ont fait allusion à une paix sociale aussi, à une paix qu'on peut définir comme l'absence de guerre. Au regard de tout cela, dites-nous, commençons d'abord par le début, la paix sociale, ce qui a été soulevé par Dr. Neil de Kinshasa. À ce moment-là, il a signifié que l'État avait un rôle important à jouer. Est-ce qu'il est possible, en tant qu'analyste politique, parce qu'on fait partie de la division des affaires politiques, est-il possible actuellement de faire allusion d'une paix sociale lorsqu'on n'a pas une paix, qu'on dit une paix sans guerre?
Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'excuse un peu pour ma voix, parce que j'ai une petite grippe, mais je pense que vous serez compréhensible ainsi que les auditeurs. En effet, vos auditeurs ont souligné différents aspects qui sont capitaux, n'est-ce pas, pour l'établissement de la paix. Certains ont mis un accent sur les questions économiques, l'emploi, d'autres ont mis l'accent sur la santé, les questions de services publics comme la disponibilité de l'eau, de l'électricité. D'autres, au contraire, ont plutôt mis en avant les questions de sécurité, c'est-à-dire pour que les agressions cessent, que les groupes armés soit neutralisé et que la police et la justice jouent leur rôle, etc. Mm-hmm. Et vous vous demandez, est-ce que on peut mettre l'accent sur, est-ce que le gouvernement peut vraiment faire des avancées significatives en matière de sécurité sociale sans avoir réglé les questions de sécurité physique, mm-hmm. n'est-ce pas? Bon, c'est une question qui est difficile. En général, c'est difficile dans toute situation, de dire qu'on peut faire avancer les choses en mettant l'accent sur un seul facteur. Parce qu'il s'agit là de facteurs qui sont intimement liés, et il est effectivement difficile de faire des progrès significatifs dans le domaine de la sécurité sociale si on n'a pas réglé les questions fondamentales de sécurité des biens et des personnes.
Mmh. Voilà. Donc, cela ce sera maintenant une priorité pour le gouvernement, d'abord d'une sécurité de l'intégrité de son territoire, au lieu de mettre d'abord un accent sur la sécurité sociale.
Bon, vous savez, dans la situation d'un pays comme la RDC, tout est prioritaire. On ne peut pas dire qu'il faut vraiment donner la priorité à ceci avant cela. Tout est prioritaire parce que vous ne pouvez pas en même temps dire on va s'occuper de fournir des emplois, de développer, quand les gens se trouvent en situation d'insécurité physique, lorsqu'ils risquent de se faire tuer à chaque coin de sentier, lorsqu'ils se rendent dans le champ. De la même manière, on ne peut pas dire nous investissons tous les efforts pour sécuriser les gens sur le plan physique, pour maîtriser les groupes armés et abandonner le terrain social, l'emploi, tout ça, va de pair. Et donc, tout est prioritaire parce que, comme vous l'avez souligné, la RDC est un pays post-conflit. Et il n'est pas facile pour un pays dans la situation de la RDC d'avancer. Mais avec les efforts qui sont notés, l'assistance de la communauté internationale, je crois que les choses avancent relativement dans la bonne direction. Et bon, ça a toujours été difficile dans tous les cas. Quand vous prenez l'Europe, par exemple, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, tout était également prioritaire. Il fallait s'occuper des problèmes sur tous les fronts. Et les problèmes ne se sont vraiment résorbés au fur et à mesure que le temps s'est écoulé. Donc, c'est après 10, 20, 30 ans que vraiment l'Europe a atteint le niveau de développement et de stabilité économique et sociale que l'on connaît, et qui est un peu mise à mal d'ailleurs avec la crise économique actuelle.
Il y a aussi Malonga qui a soulevé le rôle de la justice dans un pays qui se veut un pays qui puisse consolider la paix. Et qu'en pensez-vous?
Oui, tout à fait. C'est important de souligner l'importance, le rôle donc de la justice, même si certains estiment que lorsque on est en situation de conflit ouvert, parfois il faut mettre en avant le pardon et la réconciliation avant la justice. Mais ceux qui ont été touchés dans leur chair, ceux qui ont été victimes des exactions armées, ceux qui ont perdu des êtres très chers, il est difficile de leur demander de passer les ponts. Il y a seulement ceux-là qui ont ressenti dans leur chair toute la douleur de ces exactions, qui sont bien placés pour savoir si elles peuvent pardonner ou pas. Mmh. Et donc, c'est toujours indispensable, après un certain temps, de passer à une étape où on renforce la justice, et je crois que c'est d'ailleurs le cas actuellement, et vous savez très bien que la MONUC met l'accent sur la coopération et le gouvernement pour renforcer les institutions judiciaires, y compris la justice militaire, pour essayer d'avoir un peu plus de justice et éviter qu'on ne retombe dans les travers de l'impunité, parce que l'impunité aussi alimente le conflit. Mmh. Et une façon donc de résoudre ou de consolider de façon durable le règlement du conflit, c'est aussi de mettre fin à l'impunité.
Il y a un autre auditeur qui est revenu sur un trafic des minerais, parce qu'il y a eu quand même un agent de la MONUSCO qui a été accusé, qui est même, on l'a même condamné pour avoir initié ce trafic. Mais est-ce que vous donnez un peu plus de lumière concernant ce sujet-là?
Vous allez justement, je crois que votre auditeur a indexé poliment la MONUSCO, mais je voudrais quand même faire une petite mise au point pour dire que, en fait, la MONUSCO n'est mêlée ni de près ni de loin à un quelconque trafic de minerais en RDC. Nous savons très bien que l'une des sources du conflit qui a plongé ce pays dans le drame qu'il a connu, c'est justement le trafic de minerais. Mmh. Trafic de minerais qui est alimenté par des acteurs étrangers et également des acteurs congolais. En général, du coup, des situations aussi compliquées, il faut des relais de partout, il y a différents acteurs. Vous savez, la MONUSCO n'est pas impliquée dans ce genre de choses. Au contraire, elle, à travers son assistance, sa coopération avec le gouvernement, elle essaie justement de minimiser, contrôler, si vous voulez, ces questions de trafic de minerais, car tout le monde sait très bien que c'est vraiment le gage de la stabilisation de la RDC. Bon, mais la MONUSCO, c'est quand même des milliers d'employés. Mmh. Des milliers d'employés étrangers, donc internationaux et aussi nationaux congolais. Et parmi ces milliers d'employés, il peut y avoir de temps en temps des brebis galeuses, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle, au sein de la MONUSCO, nous avons des unités de police militaire pour faire un peu la police et suivre un peu les employés de la MONUSCO, parce que c'est vrai qu'on fait confiance à tout le monde, mais l'homme étant ce qu'il est, la nature humaine, tout le monde sait ce que c'est. Il s'agit quand même d'avoir un minimum de surveillance. C'est pour ça également que nous avons différentes instances également d'audit et de contrôle interne qui mènent régulièrement des enquêtes dans divers domaines, en matière de violences sexuelles, en matière de différentes pratiques, etc., pour s'assurer effectivement que l'image de l'organisation n'est pas ternie, que les moyens de l'organisation ne sont pas utilisés à des fins.
D'ailleurs, l'immunité de cet agent avait été levée. Il a été condamné par la justice congolaise.
Absolument. Il y a avec la coopération de la MONUSCO.
Donc, c'est un cas, il ne faudrait pas généraliser, c'est un peu ce que vous êtes en train de nous dire.
Absolument. Et sur ce chapitre, je voudrais terminer en disant que les hommes sont ce qu'ils sont, et sous tous les cieux. C'est la raison pour laquelle vous avez des institutions judiciaires, vous avez une police et vous avez des prisons. Il n'y a pas de pays sur cette terre où vous n'avez ni police, ni justice, ni prison. C'est pour pouvoir identifier, détecter les brebis galeuses, les isoler du reste de la société afin qu'ils ne contaminent pas le reste de la société. Il peut donc arriver que la MONUSCO également soit victime de ce genre de choses, mais il faut souligner que c'est des cas individuels qui sont cantonnés à des gens. Qui se livrent à ce fait délictueux, qui n'engagent pas du tout l'organisation, qui au contraire se bat contre ce genre de choses.
Nous poursuivons cette émission. Je vous rappelle nos contacts à tous nos auditeurs, le 081 890 69 69. Vous nous appelez en moins d'une minute, vous donnez votre nom, la ville d'où vous appelez, votre numéro de téléphone pour que nous puissions vous rappeler. Nous avons déjà créé cette fois-là, j'espère que la ligne téléphonique s'est améliorée. Eric se trouve à Goma et Passion à Chimboulou dans le Kasaï occidental.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Chris.
Bonjour Marie-Chantal, bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Fati.
Merci d'avoir été à votre poste récepteur, nous vous suivons d'ailleurs mieux. Dites-nous, qu'est-ce que vous proposez pour consolider la paix en RDC?
Effectivement, moi, ce qui me préoccupe, c'est un temps juste pour la paix, concernant que notre pays va bientôt la traverser la période électorale. Alors moi, j'aimerais un peu souligner, en plus, c'est aussi la paix et la démocratie. Pourquoi? J'aimerais inviter d'abord tous les acteurs politiques à tenir des discours de paix dans leur base. Et surtout, j'ai aussi une suggestion quant à la MONUSCO, à la CENI plutôt, parce que la CENI doit jouer le rôle comme arbitre dans ce processus électoral. Dans un match où il n'y aura pas de match, où il y aura seulement de vaincus et de vainqueurs. Alors, j'aimerais aussi poser la question à notre invité. Quelles sont les dispositions que la MONUSCO a prises pour que les femmes congolaises ne puissent pas connaître ce soir-là? C'est ça ma contribution dans cette émission.
Merci Christophe de Lubumbashi. Eri, bonjour.
Bonjour Chantal.
Nous vous écoutons.
Bon, j'ai suivi toute une série d'auditeurs qui s'étaient exprimés par rapport à la journée internationale d'aujourd'hui. Il y en a ceux qui ont parlé de la justice, d'autres ont parlé qu'il faut l'Enkuluna, qu'il faut qu'il soit fini, il faut que l'armée soit intégrée parmi tant d'autres groupes d'armée. Mais moi, je voudrais dire que la justice, c'est à quel niveau? Parce que la justice, nous ne pouvons pas la considérer comme telle, mais considérer la justice comme, n'est-ce pas, un système qui doit incarner ou qui doit regrouper des gens qui vont en guerre contre les autorités. Ou mieux, parce que, madame, quand vous prenez un exemple d'ici à Goma, par exemple, la justice, comment elle fonctionne? La justice, cette justice, c'est exclusivement pour un groupe d'hommes. Il y a une telle classe qui doit être punie et telle autre qui ne doit pas être punie. À ce niveau, vous qui êtes privilégié dans vos droits et l'autre qui n'est pas privilégié dans ses droits, l'autre qui n'est pas privilégié est prêt à prendre les armes et aller en guerre contre le gouvernement. Et pour beaucoup de Congolais, la guerre, c'est ça l'absence de la paix. Ça signifie que quand il y a les crépitements de balles, les gens ne sont pas en sécurité, c'est ça pour beaucoup l'absence de la paix.
En vous écoutant, n'oublions pas que chacun vit sa paix à sa manière dans le milieu où il est. Et aussi, vous vous dites que vous souhaitez que la justice soit équitable, parce que vous avez constaté qu'il y a une justice à double vitesse.
Je ne propose pas tout simplement ça, mais je voudrais aussi augmenter quelque chose, parce que cette journée internationale aujourd'hui tombe du moment que les Congolais sont en train de s'apprêter à aller aux élections. Nous ne pouvons pas également perdre de vue que quand il y a eu les élections en 2006 ici dans notre pays, que si nous avons connu ces élections un peu bien organisées, il n'y avait pas de troubles, c'est parce que c'était des élections qui avaient été suivies par la communauté internationale. À mon sens, l'une des raisons pour laquelle l'Organisation des Nations Unies a été créée, c'est d'abord consolider la paix. J'aurais souhaité que la même communauté internationale qui aurait, n'est-ce pas, suivi de près les élections qui se sont déroulées ici en 2006, soit la même communauté qui va, n'est-ce pas, ne fiche qu'elle, je sais que notre État, c'est un État indépendant, mais si cette communauté créerait une division spéciale des policiers, qui serait tirée de détachement de cette organisation qui est issue au Congo, n'est-ce pas que cela donnerait un avantage plus pour que l'élection au Congo passe dans un État ou dans un climat.
Merci Harry. On va aussi accorder la parole à d'autres auditeurs. Nous vous avons suivi, vous avez fait plus de 5 minutes, mais restez branchés sur Radio Capi. Bien sûr, vous êtes à Goma et vous nous suivez sur la 105.2. Vous aurez une réponse à votre préoccupation. Notre invité est là, comme je l'ai dit. C'est M. Anselme Yabouri de la Division des Affaires Politiques de la MONUSCO. Passons, vous êtes à Soumbloo, bonjour.
Bonjour Marie Chantal, patient qui est à Soumbloo précisément à Bakankadi.
Oui, nous vous écoutons, patient.
Oui, madame, pour avancer, je vais vous donner tout d'abord mon constat. Ce que j'ai constaté, c'est quoi? Des fois, quand nous appelons pour donner nos points de vue, vous ne nous appelez jamais. La semaine passée, j'appelais par 4 fois, vous n'avez pas réagi. Hier, j'ai même appelé, vous n'avez pas réagi. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez peut-être l'injustice. Ou soit vous appelez les gens que vous connaissez.
Oui, patient. Il faut savoir que vous êtes très nombreux à vouloir participer à cette émission. Et souvent, si vous appelez, nous nous excusons, mais souvent, lorsque vous appelez, peut-être que vous appelez un peu en retard. On a déjà clôturé, bouclé la liste des intervenants. Mais c'est toujours un plaisir pour nous. Lorsque vous appelez un peu plus tôt, vous inscrivez un peu plus tôt, c'est un plaisir pour nous de pouvoir vous appeler. Patient, vous avez autre chose à ajouter? Non, on a même une coupure, une interruption avec la ligne de patient. Merci, mais cette fois-là, on a pu vous appeler, donc vous avez participé. Nous vous encourageons prochainement, souvent, composez le 081-899-69 à partir de 10h30, heure de Kinshasa, sauf le mercredi. Le mercredi, nous commençons l'émission un peu plus tôt, donc appelez à partir de 9h30, heure de Kinshasa. Jonas Tombela, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la nouvelle société civile. Vous menez plusieurs actions pour la consolidation de la paix en RDC. Actuellement, quelles sont les activités que vous êtes en train de mener?
Actuellement, au niveau de la nouvelle société civile congolaise, nous sommes préoccupés par la question essentielle de l'organisation des actions à faire dans notre société.
Mm-hmm.
Parce que nous sortons d'une guerre, nous n'avons plus besoin encore qu'il y ait une seule groupe puissante d'un seul Congolais qui soit versé à cause de l'intolérance ou de l'incompréhension de tel ou tel autre problème. C'est l'une de nos activités principales actuellement sur laquelle nous sommes assis. Parce que la paix nous préoccupe à un très niveau. Sans la paix, on ne peut pas voir le développement de ce pays. Voilà pourquoi ça fait partie de l'une de nos priorités de l'air.
Et concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain?
Sur terrain, nous sommes engagés à la sensibilisation de la population, à la culture de valeur de la démocratie, notamment à la tolérance. Et nous appelons aux leaders politiques de ne jamais céder au message de la peine. Nous appelons à la population de cultiver la tolérance, les militants des partis des uns et des autres, de comprendre que tel est mon frère, même si son point de vue est différent du mien. Bref, nous sommes en train de faire de l'éducation civique et électorale pour que les gens arrivent à accepter des choses qui vont revenir tous les 5 ans dans notre pays. Ce n'est pas une fin en soi pour que nous puissions nous déchirer ou bien passer les biens que nous avons difficilement acquis. Voilà. Et nous allons dans les églises, nous allons dans les rues, nous organisons des réunions. Et chaque réunion que nous avons, nous commençons toujours par appeler les gens à l'apaisement et à la tolérance, surtout à la culture de la paix dans notre société.
En tout cas, merci beaucoup, Jonas Tombela. Votre témoignage au cours de cette émission, bien sûr, comme je l'ai annoncé en début d'émission, la RDC va organiser prochainement le 28 novembre prochain, des élections présidentielles et législatives. Ces élections-là, c'est la deuxième fois que la RDC va organiser ces élections après une longue transition et aussi une longue dictature. Nous passons à Patrick de Mbujimayi, bonjour.
Bonjour, bonjour Maman Chantal.
Et nous vous écoutons Patrick.
Ok, je voulais un peu contribuer à cette journée internationale de la paix. Pour moi, pour que cette journée soit garantie ici au Congo, nous voulons le changement à la tête de notre pays. Parce que le pays a été déchiré depuis 1977, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Bon, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pourquoi nous voulons le changement pour que la paix soit acceptable à tout le monde, comme dans les pays développés ou ailleurs.
Mais pour vous, pour consolider la paix, cela passe par des élections. N'oubliez pas que vous-même, vous êtes électeur, donc vous allez décider des personnes qui vont vous représenter. Nous vous remercions, Patrick. Nous allons écouter Alain, tout juste après que notre invité puisse aussi donner son avis, aussi réagir face aux avis des auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Yabouri, vous avez suivi cette deuxième série d'auditeurs, ce qu'ils pensent par rapport à la consolidation de la paix. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous fêtons ce 30e anniversaire de cette journée de la paix. Et le thème même, c'est paix, démocratie, faites-vous entendre. Ça coïncide avec ce que la RDC est en train de vivre actuellement. Passons directement à cette préoccupation de l'auditeur qui voudrait savoir qu'est-ce que la MONUSCO va faire pour sécuriser ces élections.
Merci beaucoup, Marie-Chantal. Je vous remercie également les auditeurs pour leurs commentaires et leurs questions pertinentes. Qu'est-ce que la MONUSCO va faire pour sécuriser les élections? Comme l'un des auditeurs l'a souligné, la RDC est un pays souverain et la MONUSCO est ici sur invitation du gouvernement pour apporter une assistance, une contribution. Et donc la sécurisation électorale est d'abord et premièrement du ressort du gouvernement. Et il y a cependant un certain nombre d'actions conjointes qui sont faites entre la MONUSCO et le gouvernement. Il y a notamment des formations qui sont apportées par la police de la MONUSCO, qui donc assistent un peu la PNC pour former des unités de sécurisation, du transfert du matériel, des bureaux de vote, etc. Il y a également une formation de différentes unités de contrôle de foule. Vous avez dû remarquer, par exemple, que ces derniers temps, lors des manifestations, la façon dont ça se passe entre les manifestants et les policiers, même si parfois il y a quand même des échauffourées.
Il y a eu des dérapages, hein.
Des dérapages, je voudrais vous inviter à comparer par rapport à il y a 5 ans. Par rapport à il y a 5 ans, c'était différent, n'est-ce pas? Sans trop m'étendre là-dessus, on peut constater quand même qu'il y a eu beaucoup de progrès. N'est-ce pas? Et ce progrès, justement, c'est le résultat de la collaboration qu'il y a et de la réforme et de la restructuration progressive de la PNC au sortir donc la guerre qu'a connue la RDC. Donc tout n'est pas rose, mais donc c'est progressivement que les choses se mettent en place. Mmh. Et même s'il y a de temps en temps encore des petits dérapages, comme aussi en Europe, hein, comme en France ou au Canada, lorsqu'il y a les sommets du G8, de temps en temps des dérapages aussi, c'est pas pour justifier. Mais c'est pour vous dire, ça dépend des circonstances. Il faut quand même reconnaître que la PNC a fait quelques progrès.
Il y a des améliorations.
Nous espérons que ces améliorations vont se poursuivre. Et de sorte que les élections pourront se dérouler dans un climat vraiment apaisé.
Il y a par exemple Jonas qui est revenu sur l'éducation civique parce que le thème de cette année, paix et démocratie, en écoutant Jonas Tombela de la nouvelle société civile, la démocratie comme une façon de gérer la société passe par souvent par des élections pour consolider la paix. Ils estiment qu'il faudrait que ces élections se déroulent dans un climat apaisé. Il s'est investi dans l'éducation civique, mais aussi voir dans quelle mesure insister sur la tolérance pour qu'on ait des élections apaisées. Et à ce niveau-là, que fait la MONUSCO actuellement?
Bon, la MONUSCO, justement, je commence d'abord par féliciter Jonas Tombela pour les actions de son organisation dans le cadre de la société civile, c'est des actions et des initiatives qui sont encouragées parce que justement la société civile a un rôle très important à jouer pour l'instauration de la culture de la paix. puisque la société civile, elle est là en permanence. Elle est en permanence alors que la MONUSCO est appelée à partir. Et le gouvernement a son rôle à jouer, mais la société civile aussi a un rôle très important, très déterminant à jouer pour l'instauration de la culture de la paix et le maintien de la démocratie. Et donc c'est très bien ce qui se fait. Et nous, qu'est-ce que nous faisons dans ce sens en tant que MONUSCO? Il y a déjà quelques actions, comme par exemple vous à Radio Cartis, que vous faites tous les jours, vous portez l'information, vous sensibilisez le public, et c'est le lieu de vous remercier, de vous féliciter une fois de plus.
Merci.
Et il y a également des actions de coopération qui existent entre la Division électorale de la MONUSCO, le CNUD, le projet PASS, le projet d'appui au cycle électoral, et la CENI, où il y a un certain nombre de moyens qui sont mobilisés auprès des bailleurs de fonds pour apporter un appui à la CENI et à différentes organisations de la société civile en matière de sensibilisation électorale et de sensibilisation d'action d'éducation civique. Donc ça, c'est les actions qui sont faites, mais je souligne encore une fois que l'essentiel de l'effort repose sur la CENI et sur les acteurs nationaux, que sont les acteurs de la société civile. Un de vos éditeurs a déplorer le fait que la communauté internationale semble s'impliquer un peu moins pour les élections actuelles que pour les élections de 2006. Moi, je voudrais souligner que peut-être il ne faudrait pas déplorer cela. Parce que c'est peut-être le signe que progressivement, la RDC se prend elle-même en charge et que la démocratie fait son petit bonhomme de chemin. Parce qu'en 2006, rappelez-vous d'où nous venions, il y avait eu la guerre. Qui avait fait tellement de dégâts. Le pays était divisé entre différents belligérants. Les gens à Kinshasa ne savaient plus comment aller à Kisangani. Pour aller à Kisangani, il fallait passer par Kampala ou par Nairobi. C'est incroyable.
Mm-hmm.
Et donc, la communauté internationale a apporté son appui sur demande des acteurs pour faciliter les négociations, les différents accords, les accords de Sand City avec les 8 composantes et entités qui aboutit à la mise en place du plan de transition 1 plus 4 qui n'était pas parfait mais qui a permis quand même de sortir de la crise.
Il y a eu également
des élections, il y a eu la facilitation également de négociations avec différents pays de la sous-région pour consolider la stabilisation de la RDC et de la sous-région dans son entièreté. Et il y a eu également l'appui pour déployer des observateurs et ensuite des troupes pour faciliter la réunification du pays, faciliter l'organisation des élections avec un appui massif de la communauté internationale. Et après donc la mise en place d'un gouvernement légitimement élu, il est de bon ton que la partie congolaise s'implique davantage dans l'organisation de ses propres élections, de sorte qu'il y a une pratique qui se fait, il y a une expérience qui se dégage et qui permet d'améliorer progressivement la situation. Il ne faut pas se leurrer, la démocratie ou disons le développement, ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Il faut demander aux Américains, il faut demander aux Européens et aux autres pays africains comme l'Afrique du Sud, qui ont pris un peu d'avance. Je vais vous rappeler que l'Afrique du Sud a souffert de l'apartheid. C'était une situation incroyable. Donc, c'est progressivement que les choses se mettent en place, c'est progressivement les choses se mettent bien en place.
Et puis, vous voyez que la communauté internationale va intervenir à une hauteur de 40% pour
du budget
des élections.
C'est un peu moins que en 2006, mais la communauté internationale est toujours présente. Et c'est très bien. Moi, je trouve que, disons, la part de la RDC, la participation financière et technique de la RDC s'accroît dans ce processus électoral. Il faut espérer donc que ça va permettre à ce que les élections prochaines soient complètement, cette fois-ci, prises en charge et gérées par la partie
de la RDC.
Oui. Alors, non seulement les autorités de la RDC, mais également la société civile,
tous les
acteurs impliqués dans le processus électoral. Parce que généralement, on voit gouvernement, mais non, il n'y a pas que le gouvernement.
Qui peut donner les fonds.
Qui donne les fonds. Mais il y a également le Parlement qui vote les lois, notamment les lois électorales. Il y a la société civile qui s'implique dans la sensibilisation. Il y a les confessions religieuses également à travers les homélies, les sensibilisations. Qu'elles font, elles contribuent donc à pacifier le processus électoral. Il y a la CENI, il y a aussi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, différentes institutions qui, à un niveau ou à un autre, et même les institutions judiciaires qui interviennent dans le contentieux électoral pour sécuriser et rassurer les différents candidats.
C'est
tout un processus.
Et nous allons écouter Alain Trovacolesi, Fabien Kinshasa, Vita de Béni.
c'est parce que Radio Kapuini le Congo, que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Alain, bonjour.
Ah, bonjour.
Oui, Alain. Et vous, qu'est-ce que vous proposez pour consolider la paix?
Merci pour la parole.
Oui.
Par rapport, bien entendu, au sujet d'aujourd'hui, je viens d'abord commencer par poser une question à trois volets à notre invité. C'est-à-dire qu'il est chargé, bien sûr, de la politique au niveau de la MONUSCO. La première question que j'aimerais poser est celle de savoir quelle est la politique que la MONUSCO essaie de mettre sur pied concernant les candidats, afin qu'après les élections, ils ne puissent pas essayer de contester les élections. Deuxièmement, avec le scrutin majoritaire à un tour, qu'est-ce que, en fait, l'invité peut nous donner comme risque que pour la RDC? Et enfin, le troisième volet de ma question, j'aimerais un petit peu savoir, la MONUSCO aujourd'hui, nous avons suivi avec l'évasion qui a eu dernièrement avec les machines au Katanga, la MONUSCO s'intéresse beaucoup plus dans les prisons et dans les prisons au Congo, et puis la formation également des militaires, la réhabilitation de certaines. Est-ce qu'on peut dire que l'État congolais, à un certain moment, semble être irresponsable dans ses tâches qu'il doit jouer pour que la MONUSCO puisse rendre ça à main? Maintenant, l'intervention que j'aimerais essayer de donner pour la consolidation de la paix dans notre pays, c'est que l'État congolais doit notamment essayer de former des militaires pour que nous ayons une armée républicaine capable de neutraliser toutes les milices qui se créent dans notre pays. Et le grand problème dans tout ça, c'est que les militaires doivent être d'abord motivés. Les militaires au Congo ne sont pas bien payés. Il faut qu'on leur paye l'argent normalement et qu'on leur donne des équipements adéquats afin qu'ils puissent essayer de défendre les territoires congolais. Également, les criminels au Congo. Je pense bien qu'au Congo ici, on essaie vraiment, on n'arrive pas à avec l'intolérance, bien sûr, avec l'impunité, on n'arrive pas à condamner normalement les criminels. Vous voyez, même au Congo, il y a certaines personnes, certains criminels qui se permettent même de poser des candidatures à la députation nationale, comme on l'a suivi un peu à l'autre là-bas. Donc, en gros, ça veut dire que c'est vraiment l'affaire. C'est pas possible quand même. Le pas qu'on doit prendre vraiment ses responsabilités pour essayer de condamner tout criminel qui essaie de faire des choses comme ça, même de serrer devant les instances judiciaires compétentes. Et enfin, un autre problème que j'aimerais terminer avec, c'est concernant les autorités au Congo. Ils doivent quand même, elles doivent nécessairement essayer d'avoir un peu de limite dans, en ce qui concerne la guerre dans notre pays. En certain moment, on a compris que ce sont les autorités au Congo qui créent la guerre et qui essaient de voler certains numéros. C'est pas possible quand même.
Mais s'il vous plaît, en fait, nous allons quand même, lorsque vous dites que les autorités, c'est un peu en général, hein, il faudrait pas accuser sans preuve, hein. C'est toujours important d'avoir des preuves de ce que nous disons. Nous vous remercions, Alain, d'avoir participé à cette émission. Restez branchés sur Radio Kapi, bien sûr, à Kolwezi. Vous nous suivez grâce à une radio partenaire qui diffuse les émissions de Radio Kapi. D'ailleurs, j'accorde directement la parole à notre invité pour pouvoir répondre à vos trois questions. Comme ça, nous n'allons pas perdre de vue vos préoccupations. Monsieur Yabouri, vous avez la parole.
Merci beaucoup Marie-Chantal. Je remercie notre auditeur qui a posé même plus que trois questions. Je vais essayer de répondre dans la mesure du possible assez brièvement donc à ces questions. Premièrement, il a demandé quelle est la politique de la MONUSCO pour auprès des candidats pour s'assurer que les élections se déroulent bien, qu'ils se comportent bien. En fait, comme je l'ai souligné. Plutôt, il y a un certain nombre de décisions qui sont en charge. Donc, qui sont en charge du processus électoral. On a d'abord la CENI, qui s'occupe donc de l'organisation technique. Nous avons donc les institutions judiciaires qui s'occupent du contentieux électoral, c'est-à-dire lorsque reçoit de la proclamation des résultats, si un candidat à la députation nationale X estime par exemple que c'est lui qui devrait être élu et non son adversaire, il va pas prendre les armes pour dire non, je réclame mon siège. Il saisit les instances judiciaires compétentes, n'est-ce pas, qui, à la suite d'un processus, de prise de connaissance de sa plainte, d'études, éventuellement d'organisation d'audition, va rendre une décision pour le confirmer dans sa réclamation, le débouter. Il y a également d'autres institutions, comme par exemple le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est toujours en cours de mise en place, qui doit s'occuper de la gestion, de la couverture médiatique de la campagne. Bon, maintenant, la MONUSCO.
Oui, les relations qu'il peut y avoir entre la division politique de la MONUSCO et les candidats.
Oui, justement. Donc, c'est ce que je voulais souligner. En fait, ça, c'est des questions qui sont réglées directement par les institutions en charge. C'est pas la MONUSCO qui le fait directement. Par contre, la MONUSCO vient en appui à certaines de ces institutions. Par exemple, j'imagine bien que le CESAC aura peut-être besoin de financement. Et donc là, la communauté internationale peut intervenir pour mobiliser certains financements, pour aider à la mise en route et au fonctionnement rapide du CESAC. Pour revenir au cas précis des candidats, la CENI a essayé de mettre en place un cadre de concertation et a essayé de faire signer aux candidats un code de bonne conduite. Bon, si les candidats n'ont pas encore signé, on espère que progressivement tout le monde viendra à bord. Mais là, la division de la faculté de la MONUSCO, sur instruction du représentant spécial, a effectivement assisté la CENI pour la mise en place.
Les institutions de la République pour que les élections se passent dans le cadre.
Exactement. Donc, pour cette question de code de bonne conduite et de cadre de concertation avec les candidats, donc il y a une interaction entre la MONUSCO et la CENI par rapport à ça. Mais encore une fois, c'est d'abord l'affaire de la CENI.
C'est souvent les candidats, souvent, peut-être que Alain a suivi que des candidats viennent souvent de temps en temps à la MONUSCO. Il y a des déclarations aussi après certaines rencontres que ces candidats ont eues avec la MONUSCO. Comme par exemple, dernièrement, il y avait même des candidats qui souhaitaient que la MONUSCO puisse donner les résultats des élections, qu'elle puisse le faire comme en 2006, cette époque-là, donc.
Non, même en 2006, nous n'avons pas. Non, même en 2006, la MONUSCO n'a pas donné les résultats. Et nous n'étions pas en charge, si vous voulez, de proclamer les résultats.
Ça m'a fait un peu trop dire, mais qui puisse certifier les résultats, organiser en fait les élections en leur faisant davantage.
Oui, bon. Vous savez, comme je vous ai dit, c'est une décision qu'ils ont directement en charge. Le Congo est un pays souverain. Il y a eu les élections de 2006 qui ont légitimé les institutions nationales. Donc, ils sont en charge. Et donc, il faut qu'elles s'occupent effectivement de cela. Mais comme nous sommes toujours en situation de post-conflit et donc de stabilisation, vous savez bien que le mandat de la MONU est passé d'un mandat de maintien de la paix à un maintien de stabilisation, donc de la RDC. Donc, nous continuons d'apporter un certain appui sur le plan technique, sur le plan également de plaidoyer. Vous avez souligné qu'effectivement, il y a une interaction avec les différents candidats. Effectivement, nous échangeons avec les différents candidats. Nous essayons d'établir des passerelles entre certains candidats ou certaines formations politiques pour faciliter, si vous voulez, les contacts, les relations, pour que les choses qui peuvent être résolues par la discussion le soient. N'est-ce pas? Bon, je voudrais pas dire qu'on est retourné au temps de Sanctity où on facilitait. Où on faisait un peu, si vous voulez, la médiation, la facilitation entre les belligérants militaires, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de belligérants militaires, mais d'acteurs politiques, mais il y a effectivement ce contact-là et cette interaction qui se poursuit de façon discrète, la classe politique congolaise est mature et donc c'est elle qui prend en main un certain nombre de choses.
Il y a Alain qui a aussi souligné, il voudrait avoir plus de précision, en fait, la MONUSCO appuie le domaine de la justice, la calusion plutôt aux prisons. Est-ce qu'il pense, il voudrait savoir, est-ce qu'une faiblesse du gouvernement dans, par exemple, le fait que souvent la MONUSCO aide le gouvernement à pouvoir réhabiliter les prisons ou à encadrer le personnel qui est assigné à pouvoir organiser les prisons?
Oui, effectivement, nous avons des programmes d'assistance pour réhabiliter certaines prisons, pour former le personnel, etc. Parfois aussi des programmes d'assistance alimentaire dans certaines prisons où bon il y a des difficultés pour nourrir les prisonniers. De temps en temps, dans certains cas, dans certaines régions, effectivement, il y a des assistances de ce genre qui se font. Mais encore une fois, c'est un processus qui est lent. C'est un processus qui est lent et pour un pays qui sort de la guerre, ce n'est pas évident du jour au lendemain de se retrouver avec un système pénitentiaire et judiciaire qui est parfait. Bon, je crois que c'est quelques mois.
Vous voulez savoir du gouvernement d'accepter que ça, c'est plus question.
Bon, là, c'est... Oui, mais c'est, comme je vous le dis, à partir du moment où on sait d'où l'on vient, la situation n'est pas rose aujourd'hui. Mais si vous regardez en arrière, est-ce qu'aujourd'hui, bon, il faudrait peut-être faire une micro que je vois avec mes collègues, parce que nous avons une division pénitentiaire, d'assistance pénitentiaire, il faudrait voir avec eux si il y a moins de gens qui meurent dans les prisons qu'il y a 5 ans ou pendant la guerre, ou si les prisons sont plus sécurisées, s'il y a plus ou moins d'évasion. C'est vrai que l'évasion de Lubumbashi était assez massive. Et du coup, il y a eu près de 900, un peu plus de 900 prisonniers, disons, qui sont évadés. Mais est-ce qu'il y a plus d'évasion de façon générale aujourd'hui qu'il y a quelques années? Bon, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. J'aimerais seulement souligner que lorsqu'on sort d'une situation de conflit, les progrès ne sont pas faciles. Mais les progrès se font, mais c'est vrai qu'on souhaiterait que ça aille.
D'autant plus que c'est le gouvernement qui a tendu la main et que la MONUSCO est venue en appui. Et le dernier, la dernière question, c'était un tour. Il faudrait dire que ça a été voté, ça a été voté par le Parlement dont a changé la constitution concernant cet article-là qui fait allusion au scrutin pour la présidentielle. Donc lui voudrait savoir quelles sont les conséquences. C'est assez difficile lorsqu'un pays est souverain qui a décidé de pouvoir changer son mode de scrutin pour la présidentielle.
Tout à fait, Marie-Chantal. Je suis sur le point pour dire que nous, en tant que MONUSCO, il ne nous revient pas de commenter, n'est-ce pas, les lois passées par ou votées par le Parlement. Donc ça, c'est une révision constitutionnelle qui a été passée par l'Assemblée nationale.
Mm-hmm.
Bon, j'aimerais seulement souligner qu'à travers le monde, nous avons différents types de scrutins. Et chaque type de scrutin a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas de type de scrutin qui n'a que des avantages, ça n'existe pas. Quel que soit le type de scrutin que vous adoptez, vous avez des avantages et vous avez des inconvénients. Donc ça dépend donc du pays en fonction de son histoire, en fonction également des aspirations de ses élites, n'est-ce pas? C'est tout ça qui détermine le type de scrutin qui est adopté par ce pays-là. Et bon, cela ayant été fait par un parlement d'un pays souverain, bon, je n'ai pas fait commentaire, nous, en tant que ministre, nous pouvons faire.
Nous avons Fabien qui est en ligne, Justin et Dalzon. Commençons par Fabien, bonjour.
Bonjour Marie-Chantal.
Oui, vous êtes ici avec nous, Justin, nous vous écoutons.
Je soulève mes problèmes à deux niveaux. Pour consolider la paix, il y a un problème qui dépend d'abord de la posture de notre pays vis-à-vis de la communauté internationale et de pays voisins, et au niveau même de la politique intérieure. Au niveau de relations avec les autres pays, moi je trouve que notre pays est dans une position de faiblesse par rapport à d'autres pays. Ce sont les autres pays qui viennent sur notre territoire, qui font des lois là-bas, et nous sommes incapables. La communauté internationale qui est censée nous aider, parfois...
S'il vous plaît, Fabien, allons-y directement aux propositions. Hein, vous avez fait un constat, et donnez-nous vos propositions, ce que vous proposez, qu'on puisse améliorer nos politiques intérieures, nos politiques extérieures. Allons-y directement, Fabien.
Oui, au niveau de la politique extérieure, on doit avoir les institutions fortes capables de nous défendre. Au niveau de la politique intérieure, on doit songer à la paix à la paix sociale. Il n'y a pas de paix sans paix. On doit songer au social de la population. On doit voir nos insécurités que nous avons, à part l'arme, c'est la faim, c'est la misère, il n'y a pas du travail. Donc, les politiques puissent vous donner des solutions concrètes sur la paix sociale au niveau du pays.
Merci Fabien. Justin, bonjour.
Bonjour madame, bonjour à notre invité aussi.
Oui, de Béni, qu'est-ce que vous proposez?
Comme proposition, la paix c'est l'affaire de tous, la paix n'est pas seulement le problème du gouvernement central, soit le gouvernement provincial. Pour consolider la paix en RDC, tout doit se commencer par la base. Quand je dis la base, on voit la famille. Parce qu'à Béni, si j'ai essayé de vous tracer à quelques lignes, au mois de juillet, le docteur Doja a été enlevé. D'ici à peu de semaines, il y a aussi un médecin du centre de santé de ma ville a été kidnappé par le ministère la nuit. Venez, ils ont demandé l'argent, ils ont compris que non, le docteur a reçu de l'argent, il faudrait essayer qu'on le fasse de cet argent. C'est pourquoi moi je dirais que la paix, c'est d'abord la solidarité entre les familles pour que cela se développe sur toute l'étendue de la ville du Congo. Ça que moi je passerai. Si à partir des peuples congolais, on commence déjà à se parler, l'union, l'unité, payer même les ouvriers, cela peut amener à la paix dans notre République du Congo.
Merci Justin Dalvon de Loubero, bonjour.
Bonjour.
Oui, en une minute, parce que nous allons bientôt avoir notre bulletin d'information à 11h08. Et bien sûr, nous allons revenir dans ce studio pour la seconde partie de Parole aux auditeurs. Dalvon, nous vous écoutons.
Le problème est pour consolider la paix, il faudrait vraiment résoudre le problème des groupes armés, surtout les groupes armés étrangers. Puisque si le gouvernement faisait peut-être des dialogues avec nos voisins, cela pourrait peut-être nous aider sur en ce qui concerne le problème des groupes armés, mais aussi la justice, puisque d'autres personnes sont là pour boycotter la paix au nord, ici au nord, qui vous souhaite même à la République, c'est suite à l'indignité des autres, c'est suite à l'indignité que l'on observe dans nos institutions de la justice.
Merci, Dalvon. Donc, vous pensez, vous estimez qu'il faudrait revoir certaines façons, les méthodes pour pouvoir maîtriser ou neutraliser plutôt les groupes armés étrangers qui sont encore actifs en RDC, parce que vous avez souhaité qu'on puisse plutôt approfondir le dialogue. Vous êtes revenu sur la lutte contre l'impunité. Nous vous remercions de votre intervention. Dans quelques secondes, nous allons suivre notre page d'information. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons de la paix, parce que c'est le 21 septembre. Chaque année, nous célébrons la Journée internationale de la paix sur le 21 septembre. Et pour en parler, nous avons invité pour vous Monsieur Anselme Yabouri. Il est de la division des affaires politiques de la MONUSCO. Et surtout, n'oubliez pas de composer le 081-891-6969 pour pouvoir participer à cette émission, à présent notre bulletin d'information.
La Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Parole aux auditeurs.
Deuxième partie de Parole aux auditeurs, comme chaque mercredi, nous avons encore 15 minutes que nous allons passer ensemble avec nos auditeurs. Notre invité est M. Anselme Yabouri de la division des affaires politiques de la MONUSCO. La question du jour, qu'est-ce que vous proposez pour consolider la paix en RDC? Bien sûr, en marge de la journée internationale de la paix célébrée chaque 21 septembre. Le temps que nous prenions deux derniers auditeurs au cours de cette émission, je rappelle les contacts, le 081-890-6969, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiotapi.net. Bonjour Gérard.
Bonjour Marie-Chantal.
Vous êtes ici à Kinshasa, nous vous écoutons, vos propositions.
Et avant de proposer, Marie-Chantal, je dis d'abord merci de la parole que vous m'accordez. Et j'aimerais que je remonte aux causes. Donc, quelles sont les causes qui tâchent la paix ou qui déséquilibrent la situation visible des Congolais? La première chose, je dis que c'est le manque, le non-respect des droits de l'homme. Le manque de la paix et le résultat du non-respect des droits de l'homme. Vous avez suivi tout le programme de notre chaîne de la Radio Okapi depuis le matin. À Faragé, il y a eu une tracasserie de citoyens par la police qui est supposée ou présumée protéger la population. En Bujimaï, on a anticipé la campagne. Ici, à Kinshasa, vous avez suivi les arrestations arbitraires. Tout ça, signifie que nous ne sommes pas dans un état de droit. Comme nous avons dénudé et décanté les causes, il faut maintenant déraciner les causes. Voilà pourquoi.
Okay, Gérard, allons-y, vos propositions, Gérard, vos propositions pour l'instauration d'un état de droit.
Voilà. Maintenant, nos propositions, c'est que comme nous avons l'invité de la MONUSCO qui est là, la MONUSCO peut s'impliquer dans le fait que la mission qui lui est confiée maintenant, c'est la stabilisation du Congo. S'impliquer pour qu'il y ait des élections libres et transparentes.
Merci. Merci Gérard. Nous allons écouter aussi un dernier auditeur. Nous vous remercions de votre participation. Notre invité va pouvoir répondre à votre préoccupation. Et d'ailleurs, nous lui accordons déjà la parole. Il y a eu Gérard, Dalzon, Justin, Fabien, cette série d'auditeurs. Il y a Dalzon qui est revenu sur le fait qu'il faudrait d'abord neutraliser les groupes armés étrangers actifs encore en RDC. Il est revenu sur la justice. C'est la même chose que Gérard, la justice, l'instauration d'un état de droit. Votre réaction?
Ok, merci. En fait, je ne peux que être d'accord avec l'essentiel de ce que les auditeurs, vos auditeurs, ont eu à dire tout à l'heure, à savoir que l'instauration de la paix, d'une paix durable en RDC, ça passe par la neutralisation donc des groupes armés. Il y a eu pas mal de progrès, mais il en reste encore. Il reste encore des groupes Maïmaï qui sont un peu récalcitrants, et surtout l'FDLR qui pratique les gens sur le terrain, la LRA, même si ces derniers temps ça s'est un peu amélioré de ce côté-là, aussi les ADF, et maintenant on parle également des FNL du Burundi qui sont en train de se réactiver. Donc c'est autant de groupes qu'il faut neutraliser. Tout ça c'est dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Et donc au sorti de la guerre, pendant la transition, il y a eu pas mal de progrès, mais c'est pas achevé. Progressivement, les choses se font. Il faut pouvoir poursuivre et consolider cela. Mmh. Il y a également, sur le plan de la gouvernance, ils ont évoqué la question. Il faut une meilleure gouvernance, il faut que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Il faut également que les élections provinciales se déroulent et que finalement on ait également les élections locales. Mmh. Les élections locales qui vont permettre de libérer les énergies au niveau local et donc permettre de gérer pas mal de conflits de manière plus ou moins consensuelle, en permettant aux gens d'avoir recours à des mécanismes légaux pour le faire plutôt que d'avoir recours à la violence pour gérer les conflits au plan local. Et il faut également, certains de vos auditeurs ont souligné aussi, qu'il y ait plus d'actions de sensibilisation et d'éducation civique. Ça, c'est le rôle de certaines institutions en charge des élections, c'est le rôle également de la société civile, c'est le rôle également des confessions religieuses. Il faut également réintroduire un peu plus de questions relatives à l'éducation, à la culture de la paix dans les programmes scolaires pour que dès le jeune âge, les enfants qui sont malléables à cet âge-là puissent s'imprégner vraiment de ce que c'est que la paix, de ses exigences, de sorte que lorsqu'ils vont grandir, ils vont refuser de se laisser enrôler dans ces questions de groupes armés ou de se laisser instrumentaliser par certains politiciens violents. Mais comme l'a souligné Justin, la paix, c'est la paix de tous. Et donc, il faudrait que dans nos foyers, dans nos maisons respectives, que nous puissions instaurer et diffuser une éducation, une culture de la paix. Il faut que chacun de nous s'imprègne de cela et que dans ses activités quotidiennes, dans ses actions quotidiennes, il puisse rayonner ces questions de culture et d'action en faveur de la paix. Et puis, enfin, il y a la question du développement économique. Comme on le dit souvent, ventre affamé n'a point d'oreille.
Il n'y a pas de paix sans pain.
Exactement. Donc, il ne faut pas demander à des gens qui ont faim, il ne faut pas demander à un policier qui a une kalachnikov ou un militaire qui a une arme, mais qui n'a rien dans le ventre, d'être parfaitement discipliné et de respecter entièrement les droits de l'homme. Il y a eu des progrès considérables qui ont été faits, il y a des progrès qui restent à faire, et donc pour régler les questions de salaire, régler les questions d'emploi, fournir l'eau et l'électricité aux gens, c'est vraiment une action de longue haleine, mais c'est une action qui est nécessaire et indispensable. Le développement économique est indispensable pour vraiment consolider une paix durable, non seulement en RDC, mais partout à travers le monde.
Nous vous remercions, monsieur Yabouri, d'avoir participé à cette émission, parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous nous excusons auprès de Théodore de Mbujima, nous n'avons plus assez de temps pour pouvoir écouter aussi son avis et ses propositions. Et je rappelle, monsieur Yabouri, que vous êtes faites partie de la division des affaires politiques de la MONUSCO. Nous disons également merci à tous les auditeurs, ceux qui sont intervenus, ceux qui nous ont écoutés, soit connectés sur www.radiocapi.net ou ils nous ont suivis en FM à travers le pays. Et nous allons nous retrouver demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Allô? 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 Il ne répond pas?
La Commission électorale nationale indépendante a débuté la semaine dernière le déploiement du matériel électoral non sensible à l'intérieur du pays en prévision des élections présidentielles et législatives prévues le 28 novembre prochain. Que signifie pour vous ce déploiement? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Nous disons merci à Pierre Lamégi, à Nicole Ndaka et à Suzanne Matumbu qui ont réalisé cette émission. Nous allons nous retrouver bien sûr demain à partir de 11h, heure de Kinshasa. Entre temps, restez branchés sur Radio Capi pour la suite de ce programme.